bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Suis-je hypersensible? C'est ça le sous-texte. Donc j'espère que cette émission va pouvoir vous permettre de repérer un petit peu si vous êtes hypersensible ou si dans votre entourage, il y a des personnes hypersensibles. C'est vrai que l'hypersensibilité, c'est une particularité très intéressante. Donc, juste avant que j'entre dans le vif du sujet, je rappelle donc que je suis psychologue clinicien, je suis thérapeute, notamment en ICV, et je fais partie de l'association AP21, une association de psychologues catholiques. Et donc, nous pouvons commencer sur le thème de l'hypersensibilité. Donc déjà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de vous présenter ce thème qui me tient particulièrement à cœur, puisque l'hypersensibilité, eh bien, c'est quelque chose que je connais, voilà, que je connais bien. Je suis moi-même hypersensible. C'est une des premières fois où je vais vous révéler un petit peu de moi-même et parler un petit peu de moi. Et c'est vrai que cette découverte de l'hypersensibilité, de mon hypersensibilité, m'a vraiment permis d'être pleinement moi-même. Et se découvrir hypersensible, effectivement, permet d'être pleinement soi-même sans culpabiliser d'être différent et d'avoir des besoins différents de ceux que certains auteurs peuvent nommer les normaux pensants. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif. Il n'y a pas de jugement dans cette appellation de normaux pensants. Mais c'est vrai que cette appellation s'oppose à l'hypersensibilité. Mais c'est simplement un rapport au monde qui est différent. Voilà. Les auteurs nous disent, même si je voudrais mettre en garde les auditeurs, je voudrais vous mettre en garde, c'est vrai que ce concept d'hypersensibilité n'est pas tout à fait reconnu dans la communauté des psychologues. Donc voilà, j'y vais avec des pincettes. Certains auteurs le reconnaissent, d'autres ne le reconnaissent pas bien. Voilà, donc c'est à prendre un petit peu avec prudence. Il n'empêche que les auteurs nous parlent, ceux qui parlent d'hypersensibilité, nous parlent que 20% à 25% de la population serait hypersensible et 50% de la population serait sensible et le reste moins sensible, voire insensible. On a aussi des personnes qui sont vraiment très très peu sensibles. On les retrouve généralement chez les grands criminels, les pervers, voilà. On peut aussi avoir des personnes qui sont hypersensibles, mais qui ont mis une carapace, et qui se sont blindées, comme on dit aujourd'hui, pour ne plus ressentir. Et ce mécanisme-là de blindage, vraiment de protecteur très intense, peut être lié à un traumatisme. Je vous renvoie à toutes les émissions que j'ai pu faire sur le traumatisme. Donc oui, parfois, derrière une apparente insensibilité se cache un hypersensible. La psychologue américaine Hélène Aron, qui en 1996 parle en premier de cette hypersensibilité, même si elle n'utilise pas vraiment ce mot. C'est une traduction, puisque Hélène Aron est anglophone, donc elle utilisait un mot qu'on pourrait traduire plutôt proche de l'ultra-sensibilité ou bien de haute sensibilité. Et puis, quelque chose de très important aussi en préambule, en introduction de ce thème d'hypersensibilité, c'est que l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Même si j'ai dit que parfois des traumatismes pouvaient entraîner une forme de sensibilité un peu différente, il n'empêche que l'hypersensibilité est plutôt quelque chose d'inné. Voilà. Donc ce n'est pas une maladie. Encore une fois, c'est un rapport au monde qui est différent, que je vais développer. Donc, la solution pour bien vivre comme hypersensible, c'est tout d'abord de reconnaître cette particularité, d'utiliser cette particularité comme un atout, comme une force. Car la sensibilité peut à la fois être un fardeau, mais également un don extraordinaire. Et donc, souvent, la personne hypersensible va se retrouver en décalage avec son environnement premier, et même avec ses parents, donc ses premières figures d'attachement. Elle peut se sentir pas comprise. D'ailleurs, pour remettre dans un contexte plus général, nous sommes plutôt dans une société qui est hyposensible. Parce qu'elle se robotise, parce qu'elle se protocolise, parce que l'humain semble passer au second rang. Et l'empathie, qui est chère aux hypersensibles, comme nous allons le voir, est peu présente dans nos sociétés hyposensibles. L'authenticité aussi, tant recherchée dans les relations par l'hypersensible, n'est pas vraiment valorisée dans les sociétés, dans nos sociétés. Et puis, l'hyposensibilité de nos sociétés se refuse à accueillir la vulnérabilité. Il faut être fort, il faut réussir, il faut gérer ses émotions. Il faut parfois même écraser les autres pour accéder à de hautes fonctions. Voilà. Tout cela, la personne hypersensible ne peut pas s'y résoudre. C'est même pour elle très difficile à vivre et à supporter. Enfin, pour finir cette introduction, il y a un lien entre ce qu'on appelle les surdoués, ou bien les zèbres, ou les HPI, ou les HPE, et l'hypersensibilité. Alors, si tous les hypersensibles ne sont pas surdoués, il n'empêche que les HPI, les hauts potentiels intellectuels, sont dans leur majorité hypersensibles. Et je dirais même plus, les HPE, les hauts potentiels émotionnels, sont hypersensibles. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces catégorisations qui sont assez récentes, qui, encore une fois, ne font pas l'unanimité chez les petits. Il n'empêche que le HPI, qui correspond aux surdoués, ce qu'on appelait avant les surdoués, donc aujourd'hui c'est HPI, haut potentiel intellectuel, ça c'est plutôt bien codé parce qu'on utilise un test, une évaluation qui est faite par les neuropsychologues ou des psychologues cliniciens, mais formés au test, avec un test spécialisé pour l'adulte et aussi pour l'enfant, qui détecte des personnes qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130, avec d'autres caractéristiques. Voilà. Mais c'est surtout ce QI supérieur à 130. Mais je ne vais pas développer les HPI aujourd'hui. Et puis, il y a les HPE, les hauts potentiels émotionnels, qui sont aussi hypersensibles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des liens entre l'hypersensibilité et ses hauts potentiels, mais il n'empêche que toutes les personnes hypersensibles ne sont pas des hauts potentiels. Et tous les hauts potentiels ne sont pas forcément hypersensibles, même si on retrouve beaucoup d'hypersensibilité chez les hauts potentiels. Voilà. Alors, comment définir l'hypersensibilité? J'en viens à la définition. Et la question qui est derrière, êtes-vous hypersensible? Tout d'abord, le propre de l'hypersensibilité et de l'hypersensibilité se définit comme une sensibilité intense aux stimuli de notre environnement. Les stimuli, donc, ce sont toutes les informations qui nous arrivent par nos sens, et les hypersensibles reçoivent beaucoup d'informations qu'ils ont du mal à trier et qui souvent les submergent et les fatiguent. On appelle ça l'hypersensorialité ou alors l'hyperesthésie, c'est-à-dire que les sens sont très, très, très affûté. Alors, avant de parler de cette hyperesthésie, on pourrait dire qu'il y a quatre types d'hypersensibilité. Donc, je dis l'hyperesthésie ou l'hypersensorialité, c'est l'intensité au niveau des cinq sens, mais il y a aussi l'hyperempathie, nous allons le voir, l'intensité au niveau émotionnel dans la relation à l'autre, l'hypersensibilité au niveau des pensées, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'hyper-pensée, d'hyper-cognition, il y a beaucoup, beaucoup de pensées, avec une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une pensée on appelle une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'hypersensibilité intuitive, que nous allons voir. Donc, vraiment à retenir, quatre formes d'hypersensibilité, on peut se retrouver dans les quatre, mais on peut se retrouver aussi dans une, dans deux, dans trois, dans quatre, voilà, peu importe, il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensible, finalement. Mais il y a ces quatre points qui sont très importants. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et je le répète, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Certes, un environnement premier difficile pour l'hypersensible qui arrive au monde a intensifié les conséquences, peut-être traumatiques, mais l'hypersensibilité demeure innée. Voilà, même si l'origine de l'hypersensibilité, encore une fois, ne fait pas l'unanimité et continue d'être débattue. Mais après tout, si on est hypersensible, peu importe la cause. L'important, comme je le disais, je le répète, c'est de se reconnaître hypersensible. Parce que ça va changer complètement votre rapport à vous-même et aux autres. Et donc, se reconnaître hypersensible peut être une libération incroyable qui donne une légitimité à ce qu'on vit. Non, on n'est pas fou, non, on n'est pas anormal. On est ce qu'on est. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants hypersensibles sont devenus des adultes blindés, coupés de leurs émotions et de leurs sensations, car ils ont trop souffert de leurs différences non prises en compte. Ils ont alors étouffé leur intuition, leur perception hors norme pour entrer dans le moule de la normose, comme le dirait Jean-Yves Leloup, ou bien de la normopensance, comme dirait Christelle Petit-Collin, ou bien dans le monde de protocole, ou bien le tableau Excel, comme dirait Fabrice Midal. Voilà. Et donc, parfois, se cache une hypersensibilité derrière les protecteurs de la personnalité. Donc, les enfants vont se suradapter à leur environnement, ils vont nier leurs besoins d'hypersensibles. Certains auteurs disent d'ailleurs que tous les enfants, au départ, sont hypersensibles. Et puis, ils rentrent dans une sorte d'apprentissage où ils vont, où il va falloir colorier à l'intérieur des lignes et pas déborder, où il va falloir apprendre à lire, à écrire. Et tout ça, c'est très, très bien, bien sûr. Ce sont des apprentissages nécessaires, mais qui vont stimuler le cerveau gauche et qui va prendre la place un peu des capacités du cerveau droit, qui est propre du cerveau des hypersensibles. Donc, les personnes hypersensibles, elles restent sur leur cerveau droit et peuvent avoir une forme de capacité à passer du cerveau gauche au cerveau droit, une forme de connexion entre les deux qui a pu être opérée, qui est beaucoup plus rapide. Même si aujourd'hui, cette question cerveau gauche, cerveau droit, par les neurosciences actuelles, est un peu remise en question. Voilà. Mais moi, je trouve ça intéressant, au moins sur un plan symbolique. Par ailleurs, on peut, à des moments particuliers de nos vies, comme un deuil ou un sentiment amoureux, certaines personnes sensibles peuvent vivre des moments d'hyper. Voilà. Donc, j'aimerais que cette émission puisse vous faire, vous permettre de vous reconnaître, ou de reconnaître un de vos proches dans cette sensibilité particulière, afin que vous ne vous sentiez plus seul. Comme le dit Fabrice Midal, ce trop, qui parfois dérange, donne aussi de l'allant. L'hypersensible a une vulnérabilité qui, bien comprise, peut devenir une force incroyable. On le sait depuis Aristote, celui ou celle qui ne ressent pas d'émotion est incapable de prendre des décisions justes. Les hypersensibles ont un avantage à la condition qu'ils aient compris leur mode de fonctionnement, faute de quoi ils courent à la catastrophe. Alors, l'hypersensibilité, l'hyperesthésie. Alors, l'hyperesthésie ou l'hypersensorialité, c'est donc, je l'ai dit, une particularité où les stimuli de l'environnement deviennent très intenses. Ils peuvent être vécus de manière positive, mais aussi de manière négative. Donc, cette hyperesthésie se définit par une augmentation de la sensibilité de n'importe lequel des sens, donc la vue, le son, le toucher, l'audition, l'odorat. Ça peut concerner un sens, mais ça peut aussi les concerner tous. L'hyperesthésie peut être permanente ou temporaire, mais elle peut être isolée. Et on peut réduire l'hypersensibilité à l'hyperesthésie. Par conséquent, l'hypersensible peut ressentir une odeur que personne n'a sentie. Mais en plus de cette intensité, cette odeur peut aussi l'agresser parce qu'il la ressent plus fortement que les autres, ou parce qu'elle lui est insupportable. Une autre caractéristique de l'hypersensibilité est l'excès, le trop, indépendamment de ce qu'il perçoit. Un bruit anodin pour une autre personne peut l'agresser fortement. Ainsi, chaque stimulation sensorielle peut devenir une micro-agression qui peut aller par accumulation jusqu'au débordement émotionnel. La lumière, les sons, les odeurs, tout peut être trop. Fabrice Midal raconte, en tant qu'hypersensible, qu'il ne pouvait pas dormir avec des chaussettes. Voilà, ça le grattait, par rapport à la peau, au toucher. Voilà. Et on reconnaît les enfants hypersensibles souvent comme ça. C'est-à-dire qu'une étiquette, ça les gratte, un pantalon avec une matière particulière, il ne peut pas, une couleur, ça s'agresse, vous voyez. Voilà. Tout cela est expliqué par les neurosciences, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais j'aimerais commencer quand même un peu avec les neurosciences pour vous parler de ce qu'on appelle, l'inhibition latente. En fait, dans le cerveau des personnes qui sont normopensantes, ou comme on les appelle aussi neurotypiques, donc qui ne sont pas hypersensibles, il y a un tri qui s'opère automatiquement entre les stimulations sensorielles pertinentes et celles qui ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle l'inhibition latente. C'est-à-dire, c'est un processus finalement d'élagage ou de zapping qui annule la perception des informations jugées inutiles. Donc cela va bien faciliter la concentration et ça protège le système sensoriel. Un normopensant vous recommandera sincèrement de ne pas écouter le marteau-piqueur et s'étonnera que vous en soyez à ce point incommodé. Mais dans votre cerveau d'hypersensible, cela ne fonctionne pas de la même manière. Outre cette hyperesthésie dont j'ai parlé, vous avez ce déficit de l'inhibition latente. C'est-à-dire qu'à moins de faire un effort conscient pour les neutraliser, vous devez endurer toutes les stimulations qui vous assaillent. C'est pourquoi c'est important que vous puissiez apporter de l'attention à vos perceptions sensorielles, si vous vous reconnaissez comme ça, et que vous preniez l'habitude de protéger vos sens, ils sont exacerbés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de... voilà, c'est important. Je vous renvoie au livre des best-sellers de Christelle Petit-Collin, qui est thérapeute, qui a beaucoup parlé d'hypersensibilité. Alors elle relie l'hypersensibilité à la surdouance, comme on l'a dit, au potentiel. Bon, moi, même si je les distingue, mais c'est intéressant parce qu'elle donne plein de clés, puis elle décrit bien si vous voulez aller un peu plus loin. Et son premier livre s'appelle Je pense pro. Voilà. Donc, on va le voir. Là, je viens de parler de l'hypersensorialité, de l'hyperesthésie, mais on va voir que l'hypersensibilité se décline, comme on l'a dit, avec d'autres particularités, et notamment, en deuxième point, l'empathie, c'est-à-dire l'hypersensibilité émotionnelle. En gros, l'hypersensible est une éponge émotionnelle. Donc, il va devoir apprendre à connaître ses limites parce qu'il peut être envahi par la souffrance de l'autre, par l'émotion de l'autre. Alors là, on rentre même dans une autre catégorie qu'un autre auteur sur l'hypersensibilité qui s'appelle Saverio Tomasella. Je vous renvoie vraiment à lui parce que c'est un docteur en psychologie qui a beaucoup écrit sur l'hypersensibilité et je trouve qu'il est très, très, très juste. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « Trop sensible pour être heureux ». Et vraiment, je vous renvoie à son livre qui est vraiment très bien. Et donc, lui, il parle d'ultra-sensibilité quand on parle d'hypersensibilité émotionnelle. Parce que vous l'aurez compris, ça c'est le deuxième point, tous les hypersensibles ne se reconnaissent pas dans cette ultra-sensibilité ou dans cette hypersensibilité émotionnelle, ou alors même, on appelle ça l'hyper-empathie. Voilà. Donc, les hypersensibles qui sont donc des hyper-empathes, vivent littéralement l'émotion de l'autre. Il n'y a pas de filtre, ils n'arrivent pas à se dégager de l'émotion de l'autre. Ils ont besoin de relations duelles profondes, ils fuient le groupe. Les jeux de pouvoir, de manipulation, ça les fatigue. Et il faut qu'on fasse attention, quand on est hyper empathe, aux addictions, parce qu'elles peuvent venir anesthésier cette hypersensibilité émotionnelle. Voilà. Donc, tous les hypersensibles ne sont pas hyper empathes, mais l'hyper empathie se décrit vraiment comme voilà, une hypersensibilité à l'émotion de l'autre. Et donc, accueillir cette émotion, c'est important de l'accueillir, simplement de l'accueillir. Et puis, de la laisser partir, c'est toute la méthode hippie, c'est aussi toute la méthode de la pleine conscience qui permet vraiment d'observer sans juger ce qu'on traverse, ce qu'on vit au niveau émotionnel. Et on s'aperçoit en fait que l'émotion s'en va au bout d'un moment. Mais ce n'est pas si simple pour l'hyper-empathie. Voilà. Donc, il peut y avoir une souffrance dans les relations sociales. Parfois même, certains hypersensibles peuvent se dire un peu misanthropes. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire « Mais moi, en fait, j'aime pas les gens, je fuis les gens. » Mais en fait, il faut bien comprendre que cette hyper-empathie est une forme... ça peut les agresser s'ils la gèrent très mal. Voilà. Si vous la gérez mal, ça peut vous agresser. Et du coup, vous pouvez aller jusqu'à l'isolement. Donc, c'est important d'apprendre à la gérer. Enfin, gérer, j'aime pas trop ce terme-là, justement. Mais en tout cas, d'apprendre à vous accepter tel que vous êtes. C'est très, très important. Voilà. Donc, ça, c'est l'hyper-empathie. Et parfois, aussi, on retrouve de l'hyper-susceptibilité. C'est-à-dire une remarque, une critique, et tout de suite, ça va être une émotion triste, une émotion difficile à vivre. Voilà. Mais l'avantage et le don de l'hyper-empathe, c'est qu'évidemment, il peut vraiment s'adapter à l'autre, bien comprendre, et on retrouve dans tous les métiers du soin, on retrouve sous forme de l'hyper-empathie. Voilà, dans les métiers du soin, dans les métiers de l'écoute. Et aussi, le gros avantage, c'est que l'hyper-empathe va être vraiment dans une forme d'authenticité, et de sincérité. Voilà. Et jamais dans la manipulation. Alors, le troisième point, ce sont les pensées. D'où le fameux titre de Christelle Petit-Collin, « Je pense trop ». L'hypersensibilité cognitive ou intellectuelle, comme on l'appelle, qui fait que les pensées vont à 100 à l'heure dans la tête des hypersensibles qui se reconnaissent dans cette hypersensibilité intellectuelle. Alors c'est là on va retrouver plutôt les hauts potentiels intellectuels qui pensent donc du coup par arborescence, je l'ai dit tout à l'heure, une pensée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et ça peut aller très 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 vite dans leur tête. Et d'ailleurs, l'hypersensible peut être diagnostiqué avec un trouble de l'attention. Et parfois, ce n'est pas un trouble de l'attention, parfois, c'est simplement cette hypersensibilité intellectuelle. Donc, il y a un vrai lien entre soit la suréfficience intellectuelle, soit le TDAH, le trouble de l'attention. Voilà ce qu'elle en dit, Christelle Petit-Collin. Elle dit d'ailleurs que la pensée arborescente traduit bien cela, mais elle parle plus de pensée complexe. Qui veut dire complexe, ça ne veut pas forcément dire compliqué. Mais ça veut dire que la pensée complexe est définie comme tout d'abord une pensée qui relie, c'est-à-dire qui est tissée ensemble, comme vous voyez un grand réseau, un grand maillage. Cela veut dire que par opposition au mode de pensée traditionnel qui découpe les champs de connaissances en disciplines et les compartiments, la pensée complexe est un mode de reliance. Elle est donc contre l'isolement des objets de connaissance, elle les restitue dans leur contexte et si possible dans la globalité dont ils font partie. Donc la pensée complexe, elle est systémique, c'est-à-dire que les données sont analysées dans leur contexte, elle est aussi holographique, c'est-à-dire que la partie est dans le tout et le tout est dans la partie, elle fonctionne dans une boucle rétroactive et non pas en causalité linéaire. Elle tient compte de la subjectivité ambiante et de l'incomplétude, une pensée complexe n'est jamais parfaite ni même achevée, mais au contraire en constante évolution. Donc cela donne une pensée qui a un fonctionnement proche du GPS. Seul le but est fixe, les moyens restent en permanence flexibles et sont sans cesse réévalués et ajustés. Seules les valeurs humanistes sont immuables. Mais par ailleurs, la pensée complexe n'est pas hiérarchisée. Aucun élément ne contrôle le système. Cela explique sans doute la difficulté à intégrer les notions de hiérarchie. Et une pensée complexe s'ennuie et décroche quand les choses ne sont pas complètes. C'est pour ça qu'on voit des enfants hypersensibles au potentiel intellectuel qui décrochent dans les classes et qui peuvent se retrouver même dernier de la classe, alors qu'ils ont un haut potentiel intellectuel. Et aussi, ce qui est considéré comme un déficit de l'attention n'est souvent qu'un signe d'ennui et de désintérêt, parce que la stimulation est trop faible ou le sujet inintéressant. Et Christelle Petit-Collin rappelle, elle cite cet exemple, que des parents lui ont dit que leur enfant, étiqueté donc avec un trouble de l'attention, est effectivement incapable de se concentrer en classe, mais il peut passer plusieurs heures très concentré sur une construction Lego. C'est-à-dire que l'attention des suréfficients s'évade parce que l'orateur va trop lentement, reste trop en surface de son sujet, se noie dans des détails insignifiants. Voilà. Et certaines réunions peuvent être vraiment des tortures. Voilà. Les heures de classe peuvent être insoutenables. Voilà. Vous avez compris donc que le manque de stimulation intellectuelle peut renvoyer à un hypersensible intellectuel, à de l'ennui, voilà, beaucoup d'ennui. Et puis, le quatrième point, l'intuition. Alors ça, c'est très très important parce que vraiment, c'est le propre du cerveau droit, qui est un cerveau créatif, intuitif, et dans ce qu'on appelle l'hypersensibilité intuitive, là, c'est vraiment, on va pouvoir ressentir des ambiances, des atmosphères. Un hypersensible qui est dans à ce niveau-là, enfin, pardon, pas à ce niveau-là, mais dans cette particularité-là d'hypersensibilité intuitive, va ressentir l'ambiance d'une pièce, l'atmosphère d'une pièce. Il peut même avoir des prémonitions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir écouter son intuition et pas se dire, mais non, je suis fou parce que je ressens ci, parce que je ressens ça. De toute façon, les choses peuvent se vérifier. Voilà, peuvent se vérifier et voir si c'est pas notre imaginaire ou si c'est bien vraiment des intuitions fortes qui sont comme on pourrait dire un sixième. Voilà. Donc, pour compléter ces quatre points, et pour résumer, l'hypersensible a des qualités. Donc, je dis l'empathie, les sens développés. Ça peut donner même les grands nez chez Chanel ou dans d'autres parfumeries qui peuvent élaborer des parfums, une intuition développée comme un instinct, une créativité. Sur le plan neurologique, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle l'inhibition latente, Et il y a d'autres aussi points qui sont à la recherche et qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, le thalamus, on s'est aperçu que le thalamus, qui est une gare de triage finalement des informations qui proviennent de nos sens, fonctionne moins bien. Et du coup, c'est pour ça que la personne hypersensible peut être envahie par trop de sensations ou trop d'émotions. On a vu aussi qu'il y avait un petit espace dans le cerveau qui s'appelle l'insula, ou l'insula, je ne sais pas exactement comment on prononce, qui est plus sensible, qui est plus actif chez les hypersensibles, et notamment au niveau de l'empathie. Parce que l'insula est le point commun entre la douleur, le langage, les émotions sensorielles, le plaisir de la musique, par exemple, la prise de décision, la dégustation, le rire ou les pleurs, ou même le sentiment de compassion. Toutes ces choses sont permises par l'insula. Le cortex insulaire ou insula est une partie du cortex cérébral qui constitue l'un des lobes du cerveau. L'insula joue un rôle dans les différentes fonctions du corps, mais est en particulier impliquée dans les émotions. Voilà, donc elle permet la perception d'événements internes, comme la douleur, je l'ai dit, la perception du chaud et du froid, la motricité des organes, tels que les yeux, les mains, la bouche, pour le langage. Elle contrôle certaines émotions, comme la peur, la colère, la joie ou la tristesse. Elle permet la conscience de soi. Voilà. Et elle joue un rôle prépondérant dans le sentiment de dégoût, des odeurs, le sentiment de fierté, les émotions liées au comportement social. Voilà. Donc, on parle de l'insula. On parle aussi de l'hyperfonctionnement des amygdales. Vous savez, les amygdales, c'est pas ce qu'on a au fond de la gorge, mais c'est bien une partie du cerveau. Et sont en lien avec les émotions, notamment avec la peur. Voilà. Et puis, on parle aussi, il pourrait y avoir une forme de variation dans la sensibilité à l'expression de la dopamine, voire aussi de la sérotonine qui serait moins abondante dans certains cas, ce qui impliquerait la possibilité d'être plus facilement submergé par notre environnement et impacté de façon plus positive. Voilà. Bon. Tout ça, c'est vraiment de la recherche. Je vous donne quelques pistes. N'hésitez pas à aller voir, à aller lire pour approfondir un petit peu tout ça. Et puis enfin, dernier point, la gaine de myéline, vous savez, la myéline, c'est ce qui entoure les nerfs, serait plus épaisse et du coup faciliterait la rapidité de l'influx nerveux et du coup serait en cause, enfin, dans la rapidité ou l'accès à de multiples informations, et notamment dans l'hypersensibilité, mais aussi dans les hauts potentiels. Voilà. Donc, on l'a dit, l'origine de l'hypersensibilité, on ne la connaît pas bien, même si il y a une grosse part d'inné, on le voit déjà chez les enfants tout petits. Il y a des tests sur l'hypersensibilité. Alors, des tests qui ne sont pas toujours validés scientifiquement, mais vous pouvez... essayer de faire ce test. Il y a le test d'Hélène Aron. Vous tapez Hélène Aron, test hypersensibilité dans Google et vous trouverez un test comme cela. Il y a aussi un test qui a été réalisé par le magazine Psychologie. Vous pouvez le trouver sur Internet, 130 questions, psychologie.com, qui a été élaboré avec Saverio Tomasella, dont je parlais tout à l'heure, qui est un docteur en psychologie, donc qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité, qui est vraiment, vraiment très, très pointu. C'est un test qui est très pointu. Donc, vous pouvez aller voir, taper psychologie.com, test sur l'hypersensibilité, Saverio Tomasella, et ça vous renverra voilà, à l'hypersensibilité, un test qui est très, vraiment, encore une fois, très fin, très bien fait. Voilà, et ben, je vois qu'on est arrivé au terme de cette émission, en tout cas pour ma partie. Voilà, donc maintenant, j'attends vos questions, vos réactions. Je serai très heureux de pouvoir répondre à vos questions et d'écouter vos réactions. Et voilà, de vous aider à déterminer peut-être s'il faut aller plus loin pour faire peut-être tester votre hypersensibilité. Vous savez qu'il y a des psychologues qui font cela. Voilà. Bonjour, oui. Noël, bienvenue.
Oui, bonjour Arnaud. Moi, ça m'est tombé un petit peu par hasard, comme ça, j'allais sortir de chez moi et j'ai entendu hypersensibilité, alors j'ai resté écouter, c'était très intéressant. Et je me suis dit, dans un premier temps, il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui me touchent beaucoup, beaucoup. Et je dis, bon, dans un premier temps, je vais essayer de acheter un livre. Donc, je voulais vous demander lequel, parce que vous avez parlé de « Je pense trop », vous avez parlé aussi de « Trop sensible pour être heureux ». Quel livre, pour commencer à mieux comprendre, vous me conseillerez éventuellement?
Bah celui de, effectivement, Saverio Tomasella, qui est trop sensible pour être heureux, point d'interrogation, qui est très bien.
D'accord.
Puis Saverio Tomasella,
D'accord.
il est vraiment pointu sur la question, vraiment très très pointu. Il est docteur en
D'accord.
psychologie aussi, donc ça donne une assise aussi intéressante. Christelle Petit-Paulin,
D'accord.
elle est intéressante, mais encore une fois, elle lit beaucoup l'hypersensibilité à la surdouance, hein, au haut potentiel. Ce n'est pas
Ah
forcément le
oui,
cas de
d'accord.
Saverio Tomasella, lui qui fait bien la distinction. Moi, je suis plus dans sa ligne à lui. Mais le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, il est vraiment très, très intéressant pour des gens justement qui pensent trop.
Donc,
Voilà. Donc, ça dépend
elle a...
dans les 4 points que j'ai dit, ça dépend où on se retrouve.
D'accord. Donc, dans celui de Christelle, c'est un petit peu approfondir le lien entre l'hypersensibilité et le haut potentiel
Oui.
intellectuel. D'accord.
Elle lit les deux. C'est-à-dire, elle ne parle pas
Non.
vraiment d'hypersensible isolé, mais
D'accord, très bien.
pour elle, c'est
Ça
vraiment lié les deux.
pourrait m'intéresser parce que je suis enseignant, donc ça pourrait
Oui.
m'intéresser, cet côté-là. Par contre, celui de Thomas, ça va être quelque chose de la généralité, si j'ai bien compris.
Non, pas forcément. Il parle
Pas
un peu de
forcément.
tout. Oui,
Oui.
c'est assez bien fait.
D'accord.
Voilà.
Bon, à la
Mais il y en a
limite,
plein
donc...
d'autres, hein. Il y en a aussi plein d'autres, hein. Il y a aussi un dernier livre qui est sorti là, de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? Et là,
Suis-je?
l'avantage de Suis-je hypersensible de Fabrice Midal, lui, l'avantage dans son livre, c'est qu'il remonte dans le temps et en gros, il affirme que les hypersensibles ont toujours existé. Voilà, dans toutes les
Comment?
traditions, même religieuses.
Vous
Je
dites?
disais que. Je disais que Fabrice Midal, dans son livre Suis-je hypersensible, lui, l'avantage dans son livre, c'est de dire que l'hypersensibilité a toujours existé et il remet ça dans un contexte beaucoup plus large, historique. Donc ça peut être aussi intéressant, vous voyez.
Oui,
Donc voilà, donc il y a plein de livres montrés à cette question sur
ben
l'hypersensibilité.
bon, déjà, j'ai ces 3 livres, ça va m'occuper beaucoup déjà.
Oui, tout à fait.
Merci. Et vous avez écrit aussi ou pas?
Non, non, j'ai pas écrit sur l'hypersensibilité, mais
Ah, pas
c'est vrai que
encore, ça va venir.
c'est un thème qui me tient à cœur. Ouais, tout à fait.
D'accord. En tout cas, merci pour votre émission parce que franchement, c'est la première fois que j'entends le mot hypersensibilité. Alors là, j'étais scotché sur la de Notre-Dame pour essayer de comprendre parce que je pense que c'est un petit peu mon cas et
Oui.
le cas d'autres personnes autour de moi aussi. Donc, c'est pour ça
C'est important
que...
d'en faire une force, d'en faire un don.
Comment?
Voilà. C'est important d'en faire une force,
Oui, mais
cette
le problème, je
hypersensibilité.
pense que le système de la société aussi peut nous
Oui,
écraser un petit peu, hein.
c'est
C'est ça
ça.
le problème. Ce
C'est
qui m'est
ça.
arrivé, vous savez, en 50 ans, en 40 ans presque de vie en France, j'ai quasiment pas régularisé ma situation à la préfecture parce que ça me bloque. J'ai pas compris pourquoi ça me bloque, mais peut-être c'est dans cette histoire de hypersensibilité, je pense que oui. Parce que c'est un blocage que j'ai pas compris. Un petit truc, démarche administrative très simple. J'ai dit pourquoi je me bloque autant sur des. Ça, comme si c'est une tonne de choses, ça me pèse très lourd. Alors que pour la majorité des personnes, c'est rien, c'est automatique et tout ça, quoi. Vous comprenez un petit peu. Donc, en tout cas, et moi, depuis en 40 ans de vie en France, j'ai jamais travaillé. Les derniers contrats CDD que j'ai eus, c'est 1 an, 2 fois 1 an. Voilà, en 40 ans. Vous rendez compte? C'est quand même... terrible comme donc c'est pour ça que je vais essayer de voir ça peut-être je trouverai un petit peu quelques idées pour ce qui m'est arrivé. Voilà, en tout cas, merci parce que c'est.
Merci à vous,
Je
Noël,
te
pour votre
dois.
intervention.
Ok, merci, je me souviens plus, excusez-moi.
Arnaud,
Bon,
ouais.
merci à vous, Arnaud. Oui, merci, Arnaud.
Merci à
Au
vous,
revoir.
merci à vous. Au revoir, bonne journée.
Merci Noël et Arnaud, nous avons reçu un SMS de Laurence qui me dit: Bonjour Arnaud, je voulais savoir si l'on est hypersensible ou si l'on devient. Et c'est signé Laurence.
Oui, alors ce que j'expliquais, il y a plusieurs écoles par rapport à ça, même si la plupart de ceux qui travaillent sur l'hypersensibilité parlent de quelque chose d'inné. Donc on pourrait naître effectivement hypersensible. Et on voit, il y a des enfants, on voit bien, déjà chez les enfants, les tout petits, on voit bien des différences. Et j'expliquais tout à l'heure l'étiquette qui gratte, par exemple, ou Fabrice Midal qui disait, mais moi, il ne pouvait pas, quand il était petit, il ne pouvait pas dormir avec des chaussettes, parce que ça le, vous voyez, ça l'a agressé presque. C'est des micro-agressions comme ça. C'est un peu insupportable par rapport au toucher, par rapport. Vous voyez, des choses très fines comme ça qui peuvent agresser, on le voit tout de suite. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et c'est vrai qu'à l'époque, les enfants. On dit, ah ben celui-ci, il est douillet, par exemple. On utilisait ce terme-là, c'est très péjoratif. Mais sans doute que cet enfant était hypersensible, beaucoup plus qu'un autre. Hein? Alors après, tous les enfants, certains aussi disent que tous les enfants sont hypersensibles et qu'avec l'apprentissage, eh bien, on le devient de moins en moins. Moi, je pense qu'il y a quand même des particularités à la naissance, effectivement. Voilà, c'est mon avis. Après, je vous dis, c'est encore un sujet très controversé, hein, l'hypersensibilité, comme je le disais, donc il y a encore beaucoup de recherches là-dessus, mais c'est vrai que les neurosciences nous permettent de comprendre qu'il y a des différences au niveau du cerveau, et donc peut-être qu'il y a des différences dès la naissance, effectivement. Voilà, pour répondre un peu à la question.
Alors nous avons aussi un autre SMS qui me dit: Bonjour, au niveau spirituel, quels sont les avantages et inconvénients de notre hypersensibilité pour soi-même et pour le lien d'écoute et dans le contexte de binôme de prière pour les frères? Comment gérer les trop et être dans un juste milieu? Et c'est signé Marie et elle me demande également: Jésus et Marie étaient-ils pas des hypersensibles?
Oui, c'est une très bonne remarque. Merci Marie pour cette remarque sur Jésus et Marie. Je pense qu'effectivement, Jésus et Marie peut-être étaient des hypersensibles. En tout cas, pour répondre à votre question par rapport à la prière, par rapport à la prière des frères, c'est vrai que ça peut être, encore une fois, si cette particularité est bien vécue, ça peut être effectivement, comment dire, l'hypersensible peut être en lien à son intuition beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Donc évidemment, du coup, ce qui dit intuition dit aussi intelligence intuitive, comme nous disent les pères de l'Église, hein, ce qu'on appelle les lunous, voilà, qui dans l'anthropologie chrétienne est cette faculté qui nous relie à Dieu. Et donc effectivement, cette ouverture-là, intuitive, peut être intéressante pour. Voilà, pour simplement être en connexion avec, avec le Seigneur. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir gérer, quand on est en lien avec les autres, l'émotion de l'autre. Et parfois, ce n'est pas facile. Mais on remarque que souvent, comment dire, souvent, je remarque, moi, que les charismes de guérison, par exemple, s'inscrivent peut-être chez des personnes qui, au départ, étaient hypersensibles. Pourquoi? Parce que parfois, dans le charisme de guérison, il y a cette faculté à percevoir même la douleur de l'autre dans son propre corps. J'ai déjà remarqué ça. Et ça pourrait vouloir dire qu'il y a de l'hyper-empathie, voilà, qui va jusqu'à ressentir ce que l'autre ressent et qui indique, qui donne une indication. Voilà. Donc effectivement, c'est une très bonne question. Il y a des liens entre la spiritualité et la psychologie, comme vous le savez. Il n'empêche que il ne faut pas tout mélanger, il faut bien rester dans chacun dans son domaine. C'est pour ça que je n'irai pas plus loin sur ce domaine-là. Mais c'est vrai que le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de notre psychologie, c'est très important de connaître, de bien connaître tout ça pour ne pas faire d'amalgame avec le côté spirituel. Parce qu'on n'est pas obligé d'être hypersensible pour évidemment avoir une vie de foi intense et pour être relié à Dieu, etc., etc. On est bien d'accord. Par contre, au niveau de peut-être des informations, au niveau peut-être d'une foi plus sensible, effectivement. Peut-être que, effectivement, ce sont des personnes hypersensibles et que, du coup, c'est important de ne pas culpabiliser les personnes qui sont un peu, voilà, comme ça, hypersensibles, qui reçoivent beaucoup de choses, par exemple, dans la prière. Il faut simplement leur apprendre à canaliser les choses. Et voilà. Mais effectivement, ça peut faire une différence. Mais en tout cas, au niveau de la foi, c'est la même chose. Quand c'est hypersensible, sensible ou moins sensible, de toute façon, c'est la foi qui compte et ce n'est pas la sensibilité. Bonjour Eliane.
Bonjour, mon docteur. 21. Voilà. Quand on a reçu, étant enceinte d'un enfant, et qu'on a reçu des coups de pied dans le ventre, est-ce que ça peut agir toujours sur la personne?
Bien sûr, Eliane, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle un traumatisme.
Un traumatisme
de
très
la maltraitance.
Je ne pense pas qu'à l'époque, on parlait de maltraitance à cette époque-là. On ne parlait pas.
Oui,
mais seulement, ça m'est arrivé. Et depuis, j'ai un gros problème avec cette personne, même qui est née, mais qu'elle me cause toujours beaucoup de traumatismes, beaucoup de soucis, beaucoup de... Voilà, c'est une personne qu'elle ne comprend pas. Par contre, vous avez raison quand vous dites que sensible, on peut recevoir les choses de l'autre personne. Ça, oui, je suis une personne très croyante. Et heureusement que j'ai encore ma foi et qu'il y a que Dieu qui me tient. Mais je vois que c'est vrai, quand j'ai mon frère qui est très malade, je ressens. Quand j'ai quelque chose qui va se passer dans la famille, je ressens tout avant. C'est terrible de vivre comme ça, mais après là, en ce moment, je suis clouée dans un lit. Et j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais moi, mes traumatismes, c'est de plus en plus que ça grave. Voilà, je vous remercie.
Oui, je suis tout cœur avec vous, Eliane, pour tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez. Et c'est important, encore une fois, quand la souffrance est trop importante, la souffrance morale, d'aller consulter. Hein, je ne le redirai jamais assez, mais... C'est vrai que c'est très, très, très important de ne pas rester seul avec sa souffrance. Et parfois, l'hypersensibilité peut être une vraie souffrance. Et on voit des personnes qui ont tendance à s'isoler fortement des autres parce que, voilà, elles sont comme des éponges émotionnelles. Donc, c'est important d'apprendre à vivre avec. Et parfois, il y a besoin de l'aide d'un thérapeute, tout simplement. Et c'est simplement, voilà, c'est tout simple.
C'est quelque chose qui dure depuis 70 ans.
Ben oui, justement.
Alors, vous savez, et là, je vois que on a des problèmes familiaux. Il est revenu au bout de 13 ans à la maison et il a recommencé à faire sa méchanceté et se bisouler, comme vous dites, avec mes enfants, mes autres enfants. Et je suis une vieille grand-mère, j'ai eu 5 enfants, j'ai 13 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants en attendant le 20e. Hein. C'est pour vous dire qu'on est une famille. On a été toujours une famille unie, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec cet homme, ce garçon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Oui, Laurence, encore une fois, on est tout cœur, pardon, Eliane, on est tout cœur avec vous et vraiment, moi, je vous invite à prendre conseil auprès d'un thérapeute s'il y a besoin pour mieux comprendre, justement, pour mieux connaître, pour, voilà.
Ouais, bon, ben, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, vraiment, on est tout cœur avec vous encore une fois et puis voilà, bon courage, Eliane.
Et merci, priez bien pour moi, merci.
Oui, bien sûr.
Merci Eliane pour votre appel et Arnaud, donc nous arrivons au terme de cette émission.
Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous et toutes, à tous les hypersensibles et puis tous ceux qui le sont moins, peu importe, en tout cas une belle journée à tous.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, vous venez de suivre l'émission Psychologie présentée par Arnaud Ferlin. Cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.